êtes bien à l'écoute de RFI, les 17h à Paris, 15h en temps universel et 11h à Ottawa. Le journal vous est présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce lundi, la péninsule ibérique frappée par une coupure de courant massive. L'Espagne et le Portugal cherchent activement à rétablir la situation sans connaître encore l'origine de cette panne géante qui frappe notamment les transports. Plus un train ne circule en Espagne et les centrales nucléaires sont à l'arrêt. Le Premier ministre espagnol a présidé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale. Élections législatives au Canada aujourd'hui avec en position de favori le candidat libéral et actuel Premier ministre Mark Carney. En ce jour de vote, Donald Trump réitère sa volonté d'annexer le Canada. Qui pour succéder au pape François, les cardinaux se réuniront en conclave à Rome à partir du 7 mai. Sachez aussi que l'auteur présumé du meurtre d'un jeune malien dans une mosquée du sud de la France s'est rendu à la police italienne. On vote aujourd'hui au Canada, des élections législatives anticipées dans ce pays du G7 qui fait face à une crise sans précédent avec le grand voisin états-unien. En ce jour de vote, Donald Trump donc réitère sur son réseau social sa volonté d'annexer le Canada. Et dans ce contexte de vives tensions, le grand favori est le libéral Mark Carney. Rémi Paul de bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
C'est lui, l'actuel Premier ministre, qui semble avoir la confiance des électeurs pour faire face au président américain Donald Trump, dont l'ombre plane sur le scrutin.
Oui, exactement. Donald Trump, qui, vous l'avez dit, n'a pas hésité à s'immiscer dans la campagne canadienne, dans le scrutin même canadien. Il a appelé, je cite, les Canadiens à donner leur voix à l'homme qui a la force et la sagesse de réduire les impôts de moitié. Il parle évidemment, Gilles, eh bien de lui-même, dans le cas où le Canada deviendrait, selon lui, le 51e État des États-Unis d'Amérique. Ses propos pourraient renforcer encore un peu plus le sentiment anti-américain chez les électeurs, un sentiment que le favori du scrutin, le libéral Mark Carney, a su exploiter avec succès. Avec plus de 40% des intentions de vote, l'actuel Premier ministre est largement en tête des sondages. Son image d'homme fort capable de tenir tête à Donald Trump et à ses attaques contre le Canada séduit plus que la promesse de changement portée par son principal rival, le conservateur Pierre Poilievre. En tout cas, ces élections législatives mobilisent. Les Canadiens ont été très nombreux à voter par anticipation. Les derniers bureaux de vote fermeront à 19h, heure locale, sur la côte Pacifique, soit en pleine nuit ici en Europe. Et les premiers résultats sont attendus quelques heures plus tard.
Merci Arim pour toutes ces précisions. C'était Arim Lipold en direct dans ce journal. Également dans l'actualité de ce début de semaine, je le disais dans les titres, une panne d'électricité géante qui frappe actuellement la péninsule ibérique, Espagne, Portugal, un peu aussi la France, mais brièvement. Les transports sont parmi les secteurs les plus touchés. La circulation des trains est totalement à l'arrêt et à Madrid, les autorités ont demandé aux habitants de ne pas circuler. Le trafic aérien est perturbé dans des aéroports comme ceux de Lisbonne, Barcelone et Madrid. Et les centrales nucléaires espagnoles ont été mises à l'arrêt. En début d'après-midi, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a présidé une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité nationale. Pas d'explication pour le moment sur l'origine de cette panne massive, mais rien n'est exclu, notamment une cyberattaque. Vladimir Poutine annonce une trêve des combats en Ukraine pendant 3 jours du 8 au 10 mai. Le Kremlin explique que la décision a été prise pour des raisons humanitaires à l'occasion des célébrations du 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Réaction du ministre ukrainien des Affaires étrangères. Pourquoi attendre le 8 mai? Il appelle la Russie à cesser le feu immédiatement. De son côté, la Corée du Nord a pour la première fois reconnu avoir envoyé des troupes en Russie. Au total, et d'après Kiev, près de 14 000 soldats nord-coréens ont été dépêchés depuis le mois de novembre dernier. Ils ont aidé Moscou à reprendre aux Ukrainiens des parties de la région de Koursk dont ils s'étaient emparés. Correspondance à Séoul de Célio Fioretti.
Après des mois de silence, c'est au travers de ces médias d'État que le régime nord-coréen reconnaît son intervention dans le conflit aux côtés des forces russes. Pyongyang affirme que l'envoi de ses troupes est un exemple de l'amitié stratégique avec Moscou et qualifie de héros ses soldats. Un déploiement coûteux en vie pour le régime qui essuierait déjà près de 4000 pertes. Pour ces hommes tombés au combat, le leader nord-coréen Kim Jong-un promet d'ériger un monument en leur mémoire dans la capitale, Pyongyang, où les familles pourront se recueillir. Cette reconnaissance de la participation nord-coréenne au conflit intervient deux jours après que la Russie a elle aussi confirmé la présence des troupes du régime ermite à Koursk, un moyen pour la Corée du Nord d'officialiser son intervention et de demander une compensation matérielle à Moscou. Invité par Vladimir Poutine, Kim Jong-un pourrait se rendre en Russie dans les prochaines semaines. Sergio Fioretti, Séoul, RFI.
Avec un total d'au moins 46 morts, le bilan s'est encore alourdi aujourd'hui en Iran. Les pompiers tentent toujours de venir à bout de l'immense incendie qui ravage le plus grand port du pays. L'explosion survenue samedi a aussi fait plus d'un millier de blessés. Une frappe américaine particulièrement meurtrière la nuit dernière à Sadaa, fief des rebelles houthis dans le nord du Yémen. Elle a coûté la vie, cette frappe, à de 68 Africains et blessé 47 autres dans un centre de détention pour migrants. Depuis la mi-mars, les forces américaines pilonnent pratiquement tous les jours les rebelles houthis. Le point avec Pierre-Olivier.
Plus de 800 frappes en un mois et demi, c'est ce qu'indique le centre américain de commandement pour le Moyen-Orient. Des tirs qui ont tué des centaines de combattants et leaders houthis et détruit plusieurs infrastructures militaires ainsi que des systèmes de défense antiaérienne. Un moyen pour les États-Unis de tenter de mettre fin à la menace que représentent les houthis sur la mer Rouge et le golfe d'Aden, perturbant le commerce mondial et l'accès vital au canal de Suez. Selon Washington, depuis le 15 mars, ces frappes auraient permis de réduire de près de 70% la fréquence des tirs de missiles rebelles sur les navires et de 55% les attaques de drones suicides. Soutenu par l'Iran, qui continue, selon les États-Unis, à leur livrer des armes, les Houthis ont commencé à cibler le transport maritime fin 2023, disant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. De son côté, le président américain Donald Trump a indiqué que les actions militaires contre les rebelles se poursuivraient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de menaces sur le trafic maritime.
C'était Pierre-Olivier. Le roi Frédéric du Danemark arrive ce soir au Groenland. Sa première visite officielle depuis les élections groenlandaises du début mars. Des élections remportées par les partisans d'une indépendance à petits pas. Même si le monarque n'a pas un réel pouvoir politique, eh bien sa visite symbolise le rapprochement de Copenhague avec cette île autonome danoise que Donald Trump menace d'annexer, là encore. Qui pour succéder au pape François à la tête de l'Église catholique et son 1 400 000 000 de fidèles? La réponse appartient aux cardinaux électeurs réunis en conclave, réunion à huis clos dans la chapelle Sixtine. Ce sera à partir du 7 mai. L'annonce de la date a été faite au terme d'une nouvelle réunion préparatoire ce matin, réunion à laquelle on prépare 180 cardinaux, dont plus de 100 cardinaux électeurs. Rome connaît actuellement une affluence record. À tous les fidèles venus assister aux funérailles du pape s'ajoutent les participants du jubilé, un événement catholique qui a lieu tous les 25 ans. Reportage de notre envoyé spécial Muriel Paradon.
Sur la place du Panthéon à Rome, des touristes du monde entier, auxquels se mêlent des pèlerins arrivés à la dernière minute pour les funérailles du pape. Il y a beaucoup de monde et cela fait les affaires des restaurants. Antonio est serveur, il affiche un large sourire.
C'est plein du matin au soir. Tous les Italiens sont attristés par la mort du pape. On ne peut pas dire qu'on fait du business dessus. Rome est comme ça, toujours bondé, mort du pape ou non. Mais c'est vrai que là, il y a plus de monde.
Les boutiques de souvenirs aussi font le plein. Et les babioles à l'effigie du pape François se vendent particulièrement bien depuis sa mort, assure Ali, un vendeur.
Tous les gens qui viennent ici avec respect et amour pour le pape François achètent tout ce qui est à son effigie. Ça se vend plus qu'avant. Et encore, on n'a pas reçu les objets avec la date de sa mort dessus. Ça n'a pas été fabriqué pour l'instant. Certainement que ça arrivera dans les jours qui viennent.
Mais la mort du pape a bousculé le programme de certains touristes qui avaient réservé leur voyage de longue date, comme Laurence, originaire de région parisienne.
C'est vrai que ça bloque un peu la visite de certains monuments, notamment la visite de la basilique Saint-Pierre, du musée du Vatican, de la chapelle Sixtine, parce que c'est fermé. Et il y a beaucoup de monde dans les rues, sur les monuments à visiter. Donc ça nous chagrine un petit peu, on va dire. Ça bloque un peu l'enthousiasme qu'on avait de visiter Rome.
Et pour ceux qui ont réservé leur voyage à Rome à la dernière minute, l'addition peut s'avérer salée. Certains hôtels ont doublé leurs tarifs après l'annonce de la mort du pape. Muriel Paradon, Jadel Coury, Rome, RFI.
Sachez pour finir que l'auteur présumé du meurtre d'un jeune malien dans une mosquée du sud de la France, tué à coups de couteau, que l'auteur présumé s'est rendu la nuit dernière à la police italienne. Très bonne journée sur RFI, tout de suite en votre compagnie. Nathalie Amar, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, voici sur le Pont des Arts, RFI 17h10 à Paris.